Ville capitale du royaume lointain sans lettres, 4 jours après l'incident des carottes de Samuel.
Tiens, bonjour, sœur Jaline.
Oh, bonjour, Marthe. Belle matinée, n'est-ce pas?
Tout à fait. Le soleil est là, heureusement. Et je vois que vous aussi, comme d'habitude, vous ne ratez jamais le marché aux puces annuel de notre chère capitale. Et que vous aussi, vous y venez dès l'aube, les grands esprits se rencontrent, hein?
Ah, certes. Mais j'en vois un autre là-bas qui est lui aussi encore au rendez-vous cette année.
Qui donc?
Le Mans Noir là-bas. C'est l'un des 2 petits gars du funérarium du vieux Kevin. Et je vois ce petit gredin venir à chaque brocante tous les ans, et ça depuis 2 lustres, hein?
Oh, vous semblez bien contrariée par tout cela, ma bonne sœur Jaline. Un tracas avec cet homme?
Eh bien, ce personnage est fort louche. Il vient dans cette brocante uniquement pour aller à l'étal du vieux Siegfried, le vieux bouquiniste, et toujours pour y acheter les livres avec les couvertures les plus sombres et les plus ornementées qu'il propose. Ensuite, il rentre chez lui en courant avec ses nouveaux ouvrages maléfiques sous le bras. Ah ben voilà, regardez-le, qu'est-ce que je vous disais?
Ah, c'est en effet fort troublant. Et en plus, il court comme une fille.
Ça ne tiendrait qu'à moi. Je nous foutrais tout ça au bûcher avant que ça ne tourne mal. Mais plus personne n'écoute les vieilles femmes de nos jours.
À qui le dites-vous, ma bonne dame? Il n'y a plus de respect. Et si manifestement la jeunesse se met à fricoter avec le diable, je me demande bien où va aller ce monde.
Déjà que nous sommes sous la menace de cette petite putain aux cheveux noirs qui vit dans la forêt d'à côté, là que maintenant les gamins de la ville s'y mettent aussi. Tout ça ne sent pas bon.
Rentré au funérarium, l'homme en noir affamé de lecture qui vient d'être mentionné fonça s'enfermer dans sa chambre. Il y dévora ensuite goulûment du regard le contenu des ouvrages qu'il venait d'acquérir. Kevin, car oui, c'est bien de lui qu'il s'agissait, feuilletait donc avidement ses nouveaux bouquins. Voyez-vous, le pendentif dont nous parlions à la fin de la page précédente avait, des années durant, obsédé notre pauvre croque-mort après qu'il l'eût furtivement volé.
C'était pas moi, j'étais au cinéma.
Le bijou semblait être magique, ne venait-il pas, après tout, du coup d'un enchanteur? Et Kevin était bien déterminé à découvrir ce qu'était exactement cet objet, quel était son pouvoir et comment l'utiliser. Notre ami avait consacré ses moments perdus de ces 10 dernières années afin de faire des recherches, tentant de trouver un document ou un extrait de grimoire qui pourrait l'éclairer, par exemple, en se référant à l'étrange symbole qui était gravé à l'avant du mystérieux cristal métallique. Kevin avait déjà depuis longtemps lu et relu tous les livres occultes de la collection de son ami Gontran, mais sans résultat. Il avait de nombreuses fois fait le tour des librairies de la ville, et il ne manquait jamais, et vous l'avez compris, de ratisser les brocantes à la recherche de tout écrit susceptible de contenir une piste. Les heures passèrent, et, toujours cloîtré dans sa chambre, Kevin lisait et relisait sans rien trouver de relatif à son obsession. Des remèdes de grand-mère, des récits anciens, des formules de sortilèges maléfiques et des recettes de potions diverses, il en connaissait tant par cœur, car depuis le temps et au fil des très nombreuses lectures qu'il a eues, toutes ces choses s'étaient bien ancrées dans son esprit, éveillant même parfois de nouvelles passions. Et Kevin n'aurait de repos avant d'avoir découvert ce qu'il cherchait.
Kevin, t'es là ? Tu viendrais pas m'aider à préparer le corps du vieux notable ?
Oh, désolé, Agotra, je suis un petit peu malade, alors je vais rester au lit aujourd'hui.
Ouais, chaque année c'est pareil, à la même date. T'es vraiment devenu bizarre.
Kevin, viens à moi.
Oui, oui, mon précieux, nous y travaillons, et... Oh, bordel, mais putain, mais c'est...
Ce que c'était, chers auditeurs, c'était que ce début de soirée s'était soudain vu marqué par un moment d'aboutissement. Un bonheur intense mêlé à un sentiment d'irréalité, voyez-vous. Car alors que Kevin achevait de parcourir le dernier de ses nouveaux grimoires, et étrangement le plus récent, il découvrit dans les annexes de ce dit livre une page qui attira inexorablement toute son attention. Sur cette page, s'étalaient quelques paragraphes de notes, ainsi que des croquis et divers schémas, le tout en périphérie d'un point central, épicentre qui n'était pas moins qu'une représentation large et visible de la mystérieuse rune gravée à l'avant du pendentif. Kevin avait enfin trouvé ! La vérité sur la nature du sombre bijou allait enfin être découverte !
Existant grimoire méconnu nommé la Porte. Par Berlu, enchanteur du royaume, livre terrifiant autrefois rédigé. Un pouvoir immense et destructeur, paraît-il, mis sous clé, pour impérieuses raisons, fut une page arrachée. Celle-ci brûlée, cendre au creux d'un bijou par l'enchanteur caché. Posée sur un lido, pointe de grise pierre, mène au livre mutilé.
Ce pendentif était donc un genre de clé, un passe vers un grimoire légendaire d'une extrême puissance renfermant de terrifiants secrets. Certes, Kevin fut un peu déçu de prime abord. Il avait tout initialement espéré que le bijou lui ferait acquérir très directement quelques super pouvoirs qui lui permettraient d'épater les filles et de faire ravaler à Gontran ses airs supérieurs parfois irritants. Eh mais non, le climat de mort dans lequel avait baigné notre ancien paysan illettré depuis la destruction de son village, ses nombreuses années de travail sur des cadavres, ainsi qu'une profonde imprégnation de lectures occultes dans son esprit, oui, toutes ces choses remplacèrent rapidement la déception de Kevin par une intense curiosité.
Ouais, puis si j'ai gagné un cadeau gratuit, autant aller le chercher, hein.
Kevin suivit les instructions de l'anecdote. Il remplit une petite bassine d'eau dans laquelle il posa en flottaison une feuille d'arbre. Il ne lui resta plus ensuite qu'à déposer le bijou longiforme au centre de la feuille pour ainsi parachever sa fabrication d'un genre de boussole artisanale.
Allez, mon précieux, cherche le super bouquet. Allez, cherche!
Lentement, la feuille d'arbre et le bijou, dès lors entourés d'un pâle halo mauvâtre, pivotèrent en direction du nord-est. Ravi que cela fonctionnât, Kevin enfila un manteau, emporta quelques provisions ainsi qu'une lanterne, puis il partit dans la rougeur du crépuscule, sa bassine à la main, vers la direction indiquée. Gontran, qui œuvrait dans l'atelier du funérarium, n'entendit pas son ami sortir de la partie privée de la maison. Sans quoi, peut-être aurait-il pu raisonner ce dernier et l'empêcher de se lancer dans cette folle aventure, vraisemblablement d'augure malsaine.
Au nom du ciel, Marthe, regardez ça!
Où ça? Je ne vois plus très bien, vous savez.
Vous souvenez-vous du jeune homme de vieux Kevin que nous avons aperçu ce matin? Eh bien, le voilà qui marche dans la rue.
Ah, mais encore!
Il tient un genre de bassine d'eau à bout de bras, ce qui n'est déjà pas une preuve de grande lucidité. Et en plus, vous verriez son expression. Un regard de fou!
Les gens de maintenant, vous savez, ils prennent souvent de la drogue.
Kevin fit un long trajet. Traversant la ville, sortant, longeant les campagnes jusqu'à arriver à l'orée d'une forêt, au terme d'une marche de plusieurs heures. Peu enclin à l'endurance, le corps potelé de l'homme était épuisé. Mais son esprit, lui, embrumé d'influence et par la convoitise, son esprit, oui, semblait comme perdu. L'on aurait pu penser qu'il était alors comme possédé, comme un fumeur en manque marchant vers un bar tabac. Mais ensuite, Kevin avait avancé dans la forêt, jusqu'à arriver devant l'entrée d'une grotte, obstruée par des éboulements de roches, et vers laquelle la pointe du bijou s'agitait. Notre ami dépouillologue posa boussole et lanterne sur le sol, avant de déplacer un à un les nombreux cailloux qui lui barraient la route, suant à cela pendant près d'une heure. Il réussit cependant à dégager suffisamment l'entrée de l'antre que pour y pénétrer. Et c'est dans un long couloir rocheux, sombre et humide qu'avançait dès lors notre cher Kevin. Il marcha jusqu'à arriver dans une salle étroite, éclairée par quelques rayons de lune que la paroi rocheuse laissait filtrer par des petites crevasses. Dans ce chétif abri souterrain se tenait un autel de pierre grossièrement sculpté et sur lequel était posé un lourd coffre de métal couvert de poussière. Les bras de Kevin, fatigués d'avoir porté longtemps la boussole autant que les rochers, se tendirent pourtant en vue d'ouvrir le dit coffre. La serrure rouillée ne résista pas, et à notre ami d'ensuite extraire, très doucement, un vieux et lourd grimoire. Un vieux bouquin fait d'épaisses feuilles de parchemin fragilement reliées ensemble par une seule couture. Et le croque-mort, alors, ne disait mot. Il demeurait bouche bée, silencieux et les yeux brillants d'une joie intense.
« Wouah, un précieux encore plus gros !»
Kevin remarqua un peu plus loin un gros caillou éclairé par un large rayon sélène. Il alla s'y asseoir, posa le manuscrit sur ses genoux, et il le lut, attentivement, toute sa concentration focalisée vers les mots et les schémas qui s'étalaient sous ses yeux. Visiblement, ce recueil diabolique se divisait en plusieurs chapitres, chacun portant, étrangement, un nom d'état d'esprit ou de faculté, comme fascination, tentation, hésitation, révélation, et voilà ce genre de choses. Mais c'est lorsqu'il tomba sur les lambeaux restants de la page manquante du livre que Kevin comprit. Oui, c'est Topage que l'annexe disait avoir été arrachée par Berlu et ensuite brûlée pour verser les cendres à l'intérieur du pendentif de conviction. C'était ça, la page manquante était celle des convictions. Kevin sentit alors en lui que le port de ce bijou lui permettrait désormais de plier les êtres à sa volonté, jusqu'à la mort elle-même qu'il pourrait tromper en faisant marcher des hommes défunts. Chaque chapitre contenait comme un code, une suite de pictogrammes druidiques paramétrant des équations afin de pouvoir doser diverses forces invisibles. Si l'on procédait à la canalisation de ces forces d'une certaine manière, par la vibration sonore d'une formule récitée par exemple, cela revenait à envoyer une requête d'exécution à travers les lois physiques, une demande faite, en somme, à la rémanence de l'intelligence créatrice qui jadis fit naître l'univers.
Comment allez-vous ce matin ?
Sœur Janine ! Eh bien, nous nous croisons souvent ces temps-ci !
Oh mais, tiens, à propos de croiser, devinez qui j'aperçois une fois de plus là-bas plus loin ?
Encore notre jeune drogué ?
Eh ouais, mais il vient de passer l'arche du mur nord. Il ne porte plus sa bassine en main, mais on dirait qu'il a un nouveau livre.
Et il a toujours sa même expression ?
Non, il a l'air encore plus débile maintenant.
Ah ça, la drogue, c'est une pente constante, hein ?
En ce lendemain fin de matinée, revenu devant son lieu de travail, sale, épuisé mais fervent, Kevin poussa la porte pour entrer. Mais il n'avait pas idée de ce qu'il allait découvrir à cet instant dans son vieux funérarium.
Qui est cet individu ?
Kevin, te voilà ! Mais où étais-tu ?
Ah, c'est lui votre associé ! Bref, comme je vous le disais à l'instant, nous arrivons tout juste de Voisinia. La fille de notre souverain, la princesse Migraine, y a récemment trouvé la mort dans son coma.
Incroyable ! Et que s'est-il passé ?
Une enquête est en cours. Mais cela ne vous concerne pas, citoyen. Nous sommes venus, ces deux gardes et moi, sur ordre du régent. Vous êtes chargés, messieurs, de préparer le corps de la princesse Migraine pour qu'il puisse, dès demain matin, faire l'objet d'une réception funéraire. Des questions ?
J'en aurais une seule. Cette princesse Migraine, c'est bien celle qui a assassiné le roi Client Ier il y a 10 ans, t'es...
Oui, en effet. Mais le régent tient à ce que nous honorions,
Elle lui avait jeté un sort pour ça, non ? Donc elle avait bel et bien des pouvoirs magiques, t'es...
Ça fait 2 questions, là. Pas une seule. Mais, soit. Oui, elle en a vérité de son père. Client Ier, le roi magicien. Allô ?
Et est-ce qu'elle est morte très récemment ?
Jamais 203. Elle est morte hier. Voilà, plus de questions. Bon travail, messieurs, et bonne journée.
Gontran décida de mettre de côté les comptes qu'il voulait demander à Kevin au sujet de son absence de toute la nuit durant. Où était-il parti ? Pourquoi sans prévenir ? Voyait-il un autre associé de pompe funèbre en cachette ? Bref, la situation était urgente. Répondre à une commande du régent du royaume en moins de 24 heures. Ainsi, les deux amis s'organisèrent. Gontran prendrait les mesures de la princesse puis lui confectionnerait un cercueil haut de gamme pendant que Kevin s'occuperait d'embaumer et d'habiller le corps. Mais, en arrière-plan à tout cela, s'insinuait dans l'esprit assombri de notre cher Kevin une idée terrible et effrayante. Le bonhomme en question attendit que son ami Gontran se soit ensuite rendu dans la menuiserie avec les mesures pour se préparer, lui, de son côté, à un rituel des plus mysténigmatrigants. Suivant les indications du chapitre Progression dans son livre diabolique, Kevin ouvrit sèchement la chemise de nuit du cadavre de la princesse, puis, armé d'un gros couteau denté, il enfendit sauvagement la cage thoracique avant de l'ouvrir béante, écartant les côtes de ses mains avec détermination. Ses mains, Kevin les enfonça ensuite d'une traite à l'intérieur de la dite cage osseuse pour en ressortir le cœur de la princesse Migraine. Et sans plus de préparatifs ou de formulations, notre ami croque-mort planta sauvagement les dents dans le muscle fraîchement mort et en dévora goulûment plusieurs bouchées. Il sentit déferler en lui un tas de choses, des sensations nouvelles et des souvenirs, tant de souvenirs, ceux de Migraine. Kevin pouvait voir des images d'elle, enfant, décapitant ses poupées pendant qu'elle jouait à la reine, ou en train de se changer, ou de palper fièrement devant le miroir ses petits nichons adolescents, ou encore plus grandes, en train de se toucher nue. Mais il garderait tout ça pour plus tard.
Oh bon ?
Notre ami Kevin était alors surtout interpellé par le souvenir le plus récent de la princesse Migraine. Oui, son tout dernier, celui qui précéda son coma. Vision du sort qu'elle jeta à son père. Ce sort n'avait pas été un sort de mort, c'était un sort d'exil, une hybridation délicate d'un sort d'amnésie avec un sortilège de téléportation aléatoire.
Dis Kevin, t'aurais pas vu la clé de Toul ?
Bah quoi, qu'est-ce que t'as, Gautran?
Kevin? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux Kevin? Qu'est-ce que tu fais?
Ah, ça suffit, Gautran. C'est fini, hein? Plus de Kevin, hein? Cet homme-là est mort. Et pour te le prouver, je vais désormais prendre cette voix et cet accent
complètement différent.
Quoi? Mais qu'est-ce que tu glandes?
Oui. Adieu, faible et insignifiant Kevin Kevinson. Dès aujourd'hui, je serai un homme nouveau, un homme puissant, un immortel, et je répondrai au nom légendaire de... c'est quoi encore le mot pour ça?
Pourquoi?
Pour nommer un mec qui fait de la magie avec les morts, là.
Quoi, un prêtre vaudou?
Non, le sorcier qui manipule la vie et la mort avec ses super pouvoirs.
Je suis pas sûr, tu te réfères à quel bouquin?
Le Nécromodéon, c'est le livre avec une araignée à 9 pattes gravée dessus.
Ah oui, ce bouquin-là, le mot que tu cherches, c'est nécromancien, je pense.
Et je répondrai au nom légendaire du nécromancien.
Mais arrête, Kevin, t'es complètement débile! T'as juste mordu dans un cœur humain, c'est aussi idiot que ça, tu vas pas croire! Tout ce qu'il y a décrit dans les livres.
Te mets pas en boule, mon vieux. Tu n'as pas compris. En mangeant le cœur d'une magicienne, j'ai hérité de ses pouvoirs. En plus des sorts que j'ai acquis cette nuit, je peux maintenant aussi déplacer des objets à distance, projeter de puissantes décharges d'énergie.
Ah, je serais curieux de voir ça.
Et je peux même plus encore. Regarde derrière toi.
Gontran obéit en se gaussant, avant de se retrouver, blanc de terreur, face au corps du vieux notable qu'il avait embaumé la veille. Ce dernier se tenait assis dans son cercueil et le fixait en grognant.
« Zombie, ton maître t'ordonne.
Attrape le monsieur. »
Et à Gontran de courir frénétiquement en rond dans la pièce, poursuivi par son putréfié poursuivant, tandis que son désormais ex-associé empaquetait ses affaires et du matériel juste à côté.
Tu ne m'en voudras pas? J'emmène le corbillard, car je vais partir en voyage, mon ami. Sais-tu ce que je viens d'apprendre? Figure-toi que le mage du sommet mentionné dans les contes de Lukakul existe bel et bien, en quelque sorte. Il est vivant, en tout cas. Et je crois que j'ai très envie d'aller le rencontrer. Adieu, Gontran.
Eh oui, Kevin était parti, laissant notre pauvre Gontran en plein mouvement perpétuel de course en rond. Et pour ne pas dégrossir l'emmerde, une heure plus tard, au même endroit...
Voilà, nous sommes revenus pour vous apporter une autre robe. Il y a un petit changement de dernière minute quant au choix de... C'est quoi ça? Croque-mort poursuivi par un cadavre vivant? Ça pue la sorcellerie tout ça! Garde, emmenez vif le vivant! Et le mort, laissez-le pour mort!
Et Gontran fut emmené au plus profond des geôles, sous le donjon de la milice locale. Il allait évidemment subir l'interrogatoire du délégué, tout aussi local, à l'Inquisition. Oui, le délégué à l'Inquisition, le chasseur de sorcières municipales, si vous préférez, hein.
Bien, je vais te faire parler, moi.
Mais j'ai déjà tout dit 100 fois, c'est pas moi, c'est Kevin qui est passé du côté obscur. C'est ce gros enculé qu'il faut arrêter. Vous perdez votre temps avec moi.
Tes mensonges ne convainquent personne. Tu as été pris en flagrant délit, alors inutile de nier. Et de toute façon, je ne suis pas inquiet. Avec le traitement que je te réserve, tu auras vite fait d'avouer tes crimes, tu vas voir.
Quel traitement?
Regarde, je prends cet élastique, tu vois, et je l'enroule non pas une, non pas deux, même pas trois, mais bien 4 fois autour de ton pouce. Et ce sera à toi de parler, sinon je ne retirerai pas l'élastique et ton pouce deviendra tout bleu.
C'est pas vrai. Marthe, c'est encore lui. Et il est sur sa charrue cette fois.
Mon Dieu! Et en plus, il conduit dans son état. Mais quel fou!
Alors que le corbillard passait à côté des deux vieilles commères, il s'arrêta, laissant aux dites aïeules l'occasion de découvrir le regard vide et inhumain du cavalier qui les dévisageait. Avec une froide tranquillité, le nécromancien se saisit d'un cruchon d'eau qui traînait à l'arrière du carrosse, contre le dossier du siège. Il cracha dedans et murmura quelque incompréhensible invocation avant de jeter le récipient pour qu'il se brise au pied des vieillardes. Et c'est ainsi, dans la nébulosité d'une épaisse et asphyxiante fumée orange, que le nécromancien s'éloigna de la capitale, en route vers une lointaine montagne du centre du royaume. Le sombre cocher espérait pouvoir rencontrer bientôt le roi en exil. Il l'espérait, de tout son cœur.
Moralité de l'histoire. Les loups disparaissent parce que les humains schlinguent.